Ici, Moscou. Lors de la conférence de presse le 11 mai à Bakou, le président français François Hollande a qualifié le référendum dans les régions de Donetsk et de Lugansk de vraies fausses consultations nulles et non avenues. Auparavant, le président français et ses homologues occidentaux ont condamné le référendum d'autodétermination de la Crimée, qui a rattaché la péninsule à la Russie. Par ailleurs, dans la législation de l'annexion de la Crimée à la Russie, on voit nettement l'exemple français d'il y a 40 ans, a souligné le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov dans une interview à la chaîne Russia 1. Le ministre russe se rappelait alors le référendum rattachant Mayotte à la France, île située dans l'archipel des Comores, lui-même localisé dans le canal du Mozambique entre le Madagascar et le continent africain. La France annexait Mayotte en violant les normes du droit international, malgré les protestations des Comores, malgré l'ONU et de l'Organisation de l'Unité africaine. Aujourd'hui, il faut se souvenir de cette politique de Paris. En 1841, le sultan a vendu Mayotte aux Français, moyennant une rente de 5 000 francs. La France a établi son protectorat, en effet une colonie, sur cette île d'une superficie de 375 km². Ce régime s'est bientôt étendu sur d'autres îles de l'archipel, Grande Comore, Mohéli et Anjouan. Après la Seconde Guerre mondiale, l'archipel a obtenu le statut de département d'outre-mer. En août 1972, le comité spécial de la décolonisation de l'ONU inscrit l'archipel de Comores à sa liste des territoires devant accéder à l'autodétermination. Le référendum a eu lieu en 1974. Plus de 90% des habitants de l'archipel ont voté pour son indépendance, mais les Français n'ont pas reconnu les résultats sous prétexte que la majorité des habitants de Mayotte ont voté contre. Néanmoins, les Comores sont devenues indépendantes et ont été admises à l'ONU. En 1976, la France a organisé un second référendum de Mayotte. Les Mahorais ont voté pour le maintien de leur île au sein de la République française. L'Assemblée générale des Nations unies a considéré ce référendum comme nul et non avenu et a condamné la présence française à Mayotte. La France avait l'intention d'implanter une base militaire navale sur cette île stratégique située au cœur des voies maritimes dans le canal du Mozambique. Ce projet n'a pas vu le jour, mais a été compensé par l'implantation d'une station d'écoute du réseau satellitaire français d'espionnage des communications, réseau Flanchelon. À la suite du troisième référendum, en 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, Mayotte est devenue le 101er département français. Depuis 2014, le régime européen s'étend à Mayotte. Cela veut dire qu'il faut avoir un visa Schengen pour y aller. Malgré de nombreuses résolutions de l'ONU qui ont condamné cette approche, Mayotte est un département de la République française à part entière, a indiqué le ministre Lavrov dans un entretien avec son collègue américain John Kerry. Et cela sans aucune sanction commerciale ni politique. Qu'est-ce que vous pensez sur ce genre de référendum organisé par la France dans une petite île de Mayotte loin de l'Europe. Luc Michel, géopolitologue belge, administrateur général de l'ONG Observation Eurasienne pour la démocratie et les élections, OEDE, a répondu à cette question dans une interview accordée à Igor Yazon, commentateur de Rossiya Segodnia.
C'est le meilleur exemple au sein de l'Union européenne d'une politique de double standard. Ça n'a pas empêché M. Hollande et Fabius de condamner le référendum en Crimée. Et ça n'a pas empêché M. Hollande depuis Bakou, en Azerbaïdjan, de condamner le référendum du Donbass. La France, en fait, des restes de son empire colonial, ce qu'on appelle les confettis de l'empire, c'est une série de petites possessions, de petites îles. Il y a également la Guinée française. Ça permet à la France de disposer d'une expression de puissance qu'elle n'a plus en réalité, ni militairement, ni géopolitiquement. Tous ces petits territoires, ça permet à la France d'avoir des ports d'attache pour ses navires, mais aussi d'avoir une présence économique, puisque tous ces territoires relèvent du droit économique français. Mayotte, évidemment, si on avait procédé au référendum dans l'ensemble de l'archipel des Comores, Mayotte, évidemment, ne serait jamais restée française. Il faut savoir que même au niveau des Comores, la France continue à avoir une politique. Elle reproche par exemple aux groupes armés pro-russes en Crimée au mois de mars ou maintenant dans le Donbass d'exister. Mais la France elle-même, elle, a tenté toute une série de coups d'État aux Comores avec des mercenaires, avec le fameux Bob Denard notamment, qui est le plus célèbre des mercenaires français des années 60, 70 et 80. Et donc, c'est cette France qui, vertueusement, condamne Moscou, condamne Simferopol, condamne Donetsk, condamne Lugansk. Ce n'est pas le seul exemple de double standard au sein de l'Union européenne. Autre grand critique de la Russie, les Britanniques. Les Britanniques, vous savez, ont un contentieux territorial avec Terridil, qu'on appelle en français les Malouines, que les Argentins appellent les Malvinas et que les Anglais appellent les îles Falklands. Pour possession de ces îles, Margaret Thatcher a ouvert une guerre sanglante au début des années 80. La Grande-Bretagne a définitivement décidé d'excès de facto les îles Falkland et l'a dépassé parce que l'Occident maintenant entend jouer le donneur de démocratie. Ils ont organisé un référendum dans les îles Falkland, majoritairement peuplé de Britanniques, comme la Crimée était majoritairement peuplée de Russes et de Russophones. L'Argentine a refusé évidemment ce référendum sur lequel elle n'a pas été contestée. Les pro-britanniques l'ont gagné et ça s'est fait. Ça explique pourquoi la présidente argentine, Mme Kirchner, a immédiatement reconnu le référendum de Crimée et le retour de la Crimée à la Russie. Je n'aime pas le nom d'annexion. Annexion, c'est un terme malheureux qui a malheureusement été empiré par la diplomatie russe, mais qui, dans l'opinion publique occidentale, rappelle les années 30 et les accords de Munich. Je préfère dire le rattachement. Et donc, Mme Kirchner a dit, pourquoi ne reconnaît-on pas à la Crimée ce que nous avons dû subir pour les îles Malouines. Voilà où on en est, mais toute l'Union européenne, ce n'est que ça, des donneurs de leçons. La présence française à Mayotte, c'est une présence qui est une préance néocoloniale, c'est du néocolonialisme, et toutes les inégalités de la société coloniale française d'avant sont restées maintenues, évidemment. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Il faut regarder du monde, Igor, et vous verrez que un peu partout, il y a des restes des empires coloniaux. Qui permet de maintenir une présence, justement, économique, une présence militaire. Les Américains jouent un jeu encore plus simple. Eux, ce sont les bases militaires et ce sont, évidemment, les accords économiques, comme celui qui a fait que le canal de Panama, par exemple, était directement sous contrôle américain pendant des décennies. Il faut regarder une carte du monde. Quand on veut comprendre la géopolitique ou la géostratégie, il faut regarder des atlas géographiques.
Donc, ce témoignage de la politique de double standard pratiquée par l'Occident.
Ce n'est pas seulement un double standard, mais c'est aussi une hypocrisie profonde. Parce que l'Occident a la prétention, et une prétention qui n'est pas justifiée, de représenter la démocratie. C'est-à-dire que le système parlementaire occidental, tel qu'il existe aux États-Unis, en Australie ou en Europe occidentale, serait le système parfait que les peuples du monde doivent adopter. Le problème, c'est qu'au sein même de ce système, la démocratie ne fonctionne pas. Elle est confisquée par les lobbies des médias, par les lobbies financiers, par les lobbies politiques. Il faut voir le rôle, par exemple, du lobby israélien aux États-Unis ou en France pour comprendre ce que ça représente. Aux États-Unis, il y a aussi un lobby saoudien, par exemple. En France, il y a un lobby saoudien, un lobby qatari. Donc tout ça au sein de l'Union européenne, la Commission européenne ou le Parlement européen sont sous la pression de plusieurs milliers de lobbies enregistrés. Mais ça ne serait encore rien. Le problème, c'est que partout où existent des peuples qui veulent s'exprimer, et moi, Igor, vos auditeurs commencent à le savoir, je suis un partisan de la démocratie directe. Je pense que le parlementarisme ne marche pas, qu'il faut le remplacer progressivement par la démocratie directe, et en tout cas que la démocratie directe doit prendre sa part, même au sein des systèmes parlementaires, comme ça existe en Suisse par exemple. Eh bien, quelle est la base fondamentale de la démocratie directe? C'est le référendum populaire, et dans le cas de peuples qui veulent leur indépendance, indépendance qui est reconnue par la Charte des Nations Unies, il faut le souligner, c'est le référendum d'autodétermination. Le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle est soumise elle-même à un problème interne. Il y a maintenant un certain nombre de peuples à l'intérieur des grands États ou de certains petits États comme la Belgique de l'Union européenne qui veulent leur indépendance. Pour prendre une image, l'Union européenne actuellement, vous savez, c'est une casserole à pression. La casserole à pression, quand on chauffe en dessous, il y a de la vapeur et à un moment donné, si vous ne soulevez pas le couvercle explose. C'est ce qui va se passer dans les prochaines décennies dans l'Union européenne si elle n'éclate pas pour d'autres raisons qui sont la crise économique et son échec politique économique. Quels sont ces peuples? Il y a en Espagne les Basques, les Catalans, les Galiciens. Eux réclament leur indépendance depuis les années 1930. Ils ont eu une autonomie à un seul moment sous la République espagnole. Et puis, vous savez qu'il y a une grande guerre civile en 1936-39. Et c'est le camp fasciste, le général Franco, qui a gagné avec l'aide des Allemands et des Italiens. La République a perdu. Tous les peuples ont été empêchés même de parler les langues comme le catalan, etc. Le système de Franco, ça a été aussi une casserole à pression. On a mis un couvercle sur l'Espagne et maintenant les peuples aspirent à autre chose. Il y a en Espagne la Catalogne où les indépendantistes sont majoritaires, qui est une région très riche, qui peut être parfaitement autonome économiquement, et les Catalans ont décidé de faire un référendum avant la fin de cette année. Il y a déjà eu des consultations populaires et l'Union européenne a déjà dit, et le gouvernement de Madrid, qui aussi critique Moscou et Simferopol et le Donbass, tous les deux ont dit c'est illégal, c'est anticonstitutionnel, et l'Union européenne dit nous interdisons et nous ne reconnaissons pas le référendum. Autre cas, l'Italie. Il y a des gens en Sicile, il y a des gens en Lombardie, c'est le nord de l'Italie, il y a des gens aussi à Venise, il y a des mouvements indépendantistes. À Venise, ils ont déjà fait une consultation populaire demandant aux gens, voulez-vous un référendum d'autodétermination? Ils souhaitent rejoindre la Suisse. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais il y a des raisons qui peuvent justifier ça. Et donc, Venise ici, on dit aussi aux Vénitiens, non, non, l'Union européenne, pas question de votre référendum. Il y a d'autres cas, la Belgique, où il existe un mouvement républicain flamand, où il existe un mouvement rattachiste au sein de la communauté française de Belgique, en Wallonie à Bruxelles, qui elle veut le retour à la République française. Nous avons, je suis un Français de Belgique, nous avons été Français sous la Première République française et sous le Premier Empire. Nous avons une nostalgie de ça, c'est notre culture. Les Français de Belgique, culturellement, sont tournés vers Paris. Donc, qu'est-ce qui se passe? On dit pas question de référendum. Le référendum est interdit par la Constitution belge et on peut aller dans toute une série d'autres États où la même chose se passe. Dernier cas d'espèce, c'est l'Écosse. L'Écosse, là, a pris un accord à la fois avec Londres et avec la communauté européenne. Le référendum va être organisé au mois de septembre. Là, il est légal. Mais il est légal pourquoi ? Parce que les dirigeants autonomistes écossais sont liés au parti britannique, conservateur et social-démocrate, et parce qu'ils ont, dans leur déclaration de référendum, bien précisé que l'Écosse resterait membre de l'OTAN, pas seulement de l'Union européenne, et que les importantes bases britanniques, ce sont des bases où il y a des armements nucléaires pour l'OTAN, on n'y toucherait pas. Elles garderaient leur présence, leur statut, leur autonomie. Dernière hypocrisie, toujours au sein des Britanniques et des Français. Et là, vous allez comprendre pourquoi moi je dis que les régimes parlementaires occidentaux ne sont plus démocratiques ou pas démocratiques. Il va avoir, vous savez que certains partis britanniques veulent faire un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Là, ils l'acceptent parce que ça les arrange politiquement. Ce qui n'est pas bon en Catalogne, ce qu'on ne peut pas organiser en Belgique, ce qui a été déclaré illégal en Crimée, ce qui a été déclaré criminel par la junte de Kiev dans le Donbass, eh bien, ça va devenir légal quand ça sert les politiciens. Deuxième exemple, c'est la France. La France, lorsqu'on a voulu doter l'Europe d'une constitution, il y a eu un référendum en France. Les partis traditionnels qui étaient pour l'Union européenne ont perdu ce référendum. Le référendum a été perdu, il y en a eu dans d'autres pays, mais c'est la France qui a décidé. On a abandonné le projet de constitution et un an après, la Commission européenne et le Parlement européen ont adopté les dispositions que les Français avaient démocratiquement refusé, mais ils l'ont fait sans consultation des peuples. Donc arrêtons à Bruxelles de donner des leçons de démocratie et arrêtons encore plus aux États-Unis où il y a eu des problèmes de fraude électorale massive dans l'élection au cours des 15 dernières années dans l'élection présidentielle.
À l'interview de Luc Michel, géopolitologue belge, administrateur général de l'ONG Observation Eurasienne pour la démocratie et les élections, est disponible sur notre site internet www.french.eu.